On va déguster. Sur France Inter.
Elvira fait aujourd'hui dans la simplicité et aussi un peu l'exotisme.
Oui, exactement. Alors, j'évoquais le point commun que j'aurais pu avoir avec Flaubert, qui n'est donc ni le talent, ni la corpulence.
Ça, c'est sûr.
Mais un goût certain, voire immodéré pour les œufs. Alors, immodéré, c'est plutôt dans mon cas, parce que je m'avance un peu pour ce qui est de Flaubert. On sait, car on en trouve la trace dans les souvenirs que sa nièce aurait partagés, qu'il aimait manger les œufs d'une certaine ferme. Je me tourne vers vous, Yvan. C'était la ferme attenante ou la ferme qui faisait partie de la propriété de Croisset?
Oui, la propriété de Croisset était immense. Elle faisait 3 hectares qui s'étiraient le long de la Seine. Et dans cette propriété, donc il y avait cette grande maison où Flaubert habitait. À côté, il y avait une ferme. Donc, il mangeait les œufs de la ferme et les légumes du jardin potager. Il y avait un jardinier. Il y avait un fermier et un jardinier attachés donc à la domesticité de la grande maison.
Donc il se régalait avec ses œufs et par ailleurs on lui doit, je me permets de citer encore un petit extrait du dictionnaire des idées reçues, définition de l'œuf, je le cite, « point de départ pour une dissertation philosophique sur la jeunesse des êtres ». Ce sera donc l'objet de ma chronique.
Extraordinaire, non, mais merveilleux.
Je vous rassure, j'en suis pas là. En 1847, avec son ami Maxime Ducamp, Flaubert part de Paris vers l'ouest pour un voyage de plusieurs semaines, à pied, en diligence, en canot, entre Vannes et Fougères. Le récit publié sous le titre « Nous allions à l'aventure par les champs et par les grèves » se lit aujourd'hui toujours comme un guide de voyage, on dirait du slow travel aujourd'hui, qui conduit notamment Flaubert et son ami jusqu'à Lojo, petit port arrondi autour du Nance à sable jaune. Bref, dans ce petit port, l'écrivain et son ami s'attablent dans une auberge pour manger une omelette au lard. Et dans votre livre, Valérie Duclos, cette omelette au lard devient omelette aux herbes, faite avec donc des herbes diverses, de la ciboulette, de la coriandre, de la crème, du sel et du poivre. Une omelette toute simple, une omelette roulée, comme souvent dans la cuisine classique française, comme le pratique aussi l'omelette roulée, la cuisine japonaise, le tamagoyaki avec ses fines couches d'omelettes successives. La coriandre de cette omelette de votre livre, Valérie, et les herbes en général, on les retrouve dans ce que je vous ai apporté aujourd'hui, qui n'a rien de très flaubertien, quoique ça pourrait être une omelette au vert,
tout simplement. Faites passer, s'il vous plaît. Alors, il faut décrire une espèce de galette un peu épaisse,
comme
très,
un
très verte.
Oui,
comme
très
un gâteau.
Verte.
Un gâteau.
Splendide. J'en
très
prends,
vert de ce côté-ci.
Une petite part et je fais passer.
Si vous la retournez, elle est plutôt dorée.
C'est vrai, carrément.
Et elle est bourrée d'herbes, effectivement. De coriandre, donc, de persil plat et d'aneth. L'aneth peut vous donner une indication de la provenance de cette recette. Et ce n'est pas la Suède, pour une fois.
Oui, c'est compliqué parce que l'aneth, c'est aussi bien une passion du nord de l'Europe que de l'Orient.
Et bien voilà, quel pays, quelle grande gastronomie
la Perse,
méconnue, voilà.
L'Iran.
L'Iran est un pays
j'ai pas du tout triché.
Dont la cuisine est finalement assez peu épicée, mais très très herbacée. Cette omelette que je vous ai apportée, ou plutôt cette espèce d'épaisse galette d'œufs aux herbes, est un koukou sabzi.
Koukou sabzi.
Koukou sabzi, c'est une recette archi connue en Iran. On le mange traditionnellement le 21 mars, lors de la fête de Nowruz, le nouvel an du calendrier persan. Alors il existe toutes sortes de koukous en Iran, le koukou sib zamini aux pommes de terre, le koukou morgue au poulet, le koukou badejnam aux aubergines. Et ce koukou sabzi, je l'adore parce qu'il fait partie de la grande famille des omelettes non roulées, non repliées, donc moins techniques, des omelettes ouvertes qui vont de la frittata italienne en passant par l'igé que l'on mange à la table palestinienne. Et en poussant un peu, on pourrait penser un peu au crespé ou provençal, qui est souvent un gâteau fait d'omelettes successives ouvertes. Il y a un côté un peu crespé dans cette recette. Alors c'est une des choses que je préfère au monde, d'abord parce que c'est archi simple à préparer et parce que c'est le meilleur moyen de ne pas gaspiller tout ce qui menace de faire un peu la tête dans le bac à légumes. On cuit à la poêle la garniture, on bat les œufs et on les verse sur les herbes ou les légumes qui menaçaient de se perdre dans le réfrigérateur. Ça cuit et voilà, pas besoin de replier, pas besoin de rouler. On retourne pas. Moi j'aime bien présenter les omelettes comme ça ouvertes, les frittatas, sans les retourner. Je trouve plutôt plus joli du côté vert. Pour ce koukou sabzi, j'ai procédé en m'inspirant de 2 livres que j'aime beaucoup et que je consulte très souvent, signés par 2 femmes. La cuisine perse de Neda Afrachi aux éditions de La Martinière et Persiana, dont j'ai déjà parlé ici, de Sabrina Gayour, édité chez Hachette Pratique, et qui chacune livre leur recette du koukou sabzi. J'ai mixé un peu les 2 recettes. J'y ai mis 6 œufs, j'y ai mis un poireau, j'y ai mis du curcuma, un oignon, un tout petit peu de curry qui n'a rien à faire là, mais je trouvais que c'était pas mal. J'ai mis un peu de sauce tamari, celle qu'on a évoquée dans une précédente émission.
Très bonne
tamari koura, fabriquée en Bourgogne, sans aucun gros mot à l'intérieur. Ça m'a paru bien aussi, même si évidemment ça n'a rien d'iranien. Il y a une petite cuillère à soupe de farine. en fonction des textes que l'on trouve. Il peut y avoir un petit peu de levure chimique, il peut y avoir un petit peu d'une matière type yaourt, fromage blanc. Et j'ai mis surtout de l'épine vinette, qui est cette petite baie typique de la cuisine persane, qui a cette saveur comme ça, un peu d'érelle. C'est drôle parce qu'il y a des points communs entre l'aneth en Scandinavie et en Iran, et on trouve également une baie qui ressemble à l'érelle scandinave. On peut mettre des noix, c'est très iranien aussi, j'en avais pas donc j'en ai pas mis. Et puis on fait cuire ça dans un moule à gâteau, un peu huilé, au four, ça se cuit au four.
C'est splendide.
Et c'est tout bête.
C'est splendide, je promets à cette recette un grand succès. Je sais pas si vous avez remarqué, mon voisin de droite, Jérôme Gagnès, a totalement snobé cette recette. Vous nous en avez expliqué la raison?
Pas du tout, je l'ai mangé, et j'ai trouvé ça délicieux.
Non, il n'y a pas un petit problème avec une certaine herbe aromatique?
Non, mais c'était...
Non, en fait, j'aime bien la
coriandre.
Non, il y a de la coriandre.
Non, on la sent pas.
Persil, plat,
on la sent très peu, et je disais justement à Elvira que je revenais à la nette progressivement après m'en être longuement écarté.
Jérôme Gagnès ouvre son esprit.
Et je trouve que c'est absolument délicieux. Et on faisait la réflexion avec Elvira qu'accompagnée d'une petite salade bien vinaigrée et un peu moutardée, ce serait absolument un dîner du dimanche soir.
Exactement.
Absolument parfait.
C'est vraiment génial.
De le mettre aux herbes à la Flaubert.
J'en fais demain ou après-demain ou cette semaine.